Bonjour à toutes et tous. Après ces vacances olympiques et à suspense sur le plan institutionnel, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique juridique qui sera donc la première d'une nouvelle année radiophonique. Et la troisième année, je crois, qui commence. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les différentes nouveautés des 1er juillet, 1er août et 1er septembre que vous avez forcément raté, les doigts de pied en éventail, sur la plage ou ailleurs. Alors en juillet, plusieurs nouveautés sont venues modifier sensiblement notre vie quotidienne avec des effets pour certains importants. Alors pour ma part, parmi différentes mesures, j'en ai retenu deux. La première, c'est que désormais, tous les véhicules neufs vendus à partir du 7 juillet, c'était donc il y a deux jours, devront être munis d'un ensemble d'appareillages. Plusieurs équipements de sécurité réservés aux voitures haut de gamme deviennent obligatoires à partir du 7 juillet pour toutes les voitures et camionnettes neuves vendues en Europe, comme l'adaptateur de vitesse en fonction des limitations, l'aide au maintien de la trajectoire, les radars ou caméras de recul, l'avertisseur de perte d'attention et, tenez-vous bien, une boîte noire sur chaque véhicule. Naturellement, ça ne va pas contribuer à faire baisser le prix des voitures. Pour la boîte noire, elle n'est censée être consultée que par les forces de l'ordre en cas d'accident, afin de définir les circonstances, ce qui peut aider l'automobiliste à se disculper ou l'enfoncer le cas échéant. Mais on peut légitimement craindre qu'à terme, elle fasse partie de la possibilité d'un contrôle inopiné avec une prune à la clé. Nous verrons. L'autre nouveauté que je retiens, c'est l'obligation dans les magasins, alors les supermarchés, hypermarchés et autres marchés, dans ces magasins, donc, d'informer par voie d'affichage de la screenflation pratiquée par le fabricant. En français, on dit réduflation, même si le terme n'est manifestement pas plus heureux en français qu'en anglais. Il s'agit en fait d'une pratique du fabricant qui vend son produit toujours au même prix, donc pas d'inflation ressentie, mais qui réduit la quantité de produits dans le paquet, donc ressentie d'arnaque. Les supermarchés estiment que ce devrait être aux fabricants agro-industriels de prendre en charge cet affichage. Et les spécialistes sont quand même dubitatifs en relevant que les réductions de quantité sont souvent accompagnées d'évolutions de recettes, donc à partir de là, il n'y a plus besoin de faire de l'affichage. Et puis par ailleurs, l'affichage du prix au litre ou au kilo, qui met en évidence une hausse de tarif, est de toute façon déjà obligatoire. Mais quand même, ouvrez l'œil dans votre supermarché favori. En ce qui concerne le mois d'août, pendant que nous polémiquions sur la cérémonie d'ouverture des JO, en attendant non pas Godot mais finalement Barnier, les nouveautés sont les suivantes. Bon, je commence par une info qui n'est pas juridique mais financièrement intéressante. Le prix de l'électricité qui devait prendre plus 1% en août n'a finalement pas augmenté. Mais on me dit dans l'oreillette que le prix du gaz qui devait augmenter de 11% en juillet a lui bien augmenté. Voilà. Alors ce qui est surtout intéressant en août, c'est dans le domaine éducatif. Forcément, on prépare la rentrée. Et plus spécialement, la formation professionnelle, les CAP, les BTS et les licences professionnelles. Dans ces domaines, des contraintes nouvelles vont peser sur les centres de formation, notamment les CFA. Jusqu'à présent, les vérifications des OPCO, alors l'OPCO, c'est l'organisme de collecte des cotisations pour la formation professionnelle, celle qui récupère auprès des employeurs les cotisations pour financer la formation professionnelle des adultes, voire des simples étudiants. Donc jusqu'à présent, ces vérifications des OPCO sur la conformité des contrats ne comportaient que sur les points suivants. L'âge de l'apprenti, qui est de 16 à 29 ans, sauf exception, l'éligibilité à l'apprentissage de la formation, la personne choisie comme maître d'apprentissage, qui doit être salarié de l'entreprise, volontaire, oui, majeur, et offrir toute garantie de moralité. Et enfin, la rémunération minimum perçue par l'apprenti. Tout ça, c'était vérifié avant. Maintenant, pour tous les contrats d'apprentissage qui ont été conclus à partir du 1er août 2024, et donc en réalité, pour la rentrée 2024. Des vérifications supplémentaires sont opérées par les OPCO. Une, l'employeur ne doit pas faire l'objet d'une procédure d'opposition à l'engagement d'apprenti, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance. Par ailleurs, le cas échéant, l'organisme de formation doit avoir les habilitations nécessaires pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer les certifications professionnelles. Enfin, l'organisme de formation doit avoir reçu la certification Calliope, qui est très compliquée à obtenir, très compliquée à conserver, sauf dispense. Il n'y en a pas. Cette certification atteste de la qualité de la formation. Alors, c'est une nouveauté pour les centres de formation, mais c'est aussi des contraintes nouvelles pour ceux qui sont amenés à enseigner dans ces centres en leur qualité de professionnels venant apporter des connaissances liées à leur expérience, lesquels doivent maintenant obtenir des autorisations pour enseigner, voire un numéro de formateur. Il est malheureusement à craindre que cette soviétisation de la formation professionnelle ne conduise à faire renoncer un certain nombre de formateurs non professionnels à enseigner, ce qui aurait pour effet d'appauvrir l'enseignement technique. Parce que plus vous allez mettre de contraintes sur des gens qui sont déjà des professionnels et puis qui ont autre chose à faire, eh bien moins ils auront de possibilités de venir ou l'envie de venir. À surveiller. Pour le 1er septembre, on retiendra essentiellement que le gouvernement, en lien avec ce que l'on vient de voir pour les CFA, a poursuivi sa réforme des lycées professionnels. La réforme de la voie professionnelle qui était lancée en 2023 par Carole Grandjean, alors ministre déléguée à la formation professionnelle, est devenue effective à la rentrée 2024. Un arrêté du 22 janvier 2024 a fixé les contours du nouveau lycée professionnel, avec à la clé un parcours différencié de 6 semaines proposé aux élèves de terminale. D'une part, un parcours de préparation à l'insertion professionnelle qui vise à accompagner les élèves dans leur projet professionnel via une convention de stage. Ensuite, un parcours de préparation à la poursuite d'études dont l'objectif est de favoriser la réussite post-bac. Par ailleurs, de nouvelles règles sont entrées en vigueur suite à la loi immigration du 28 janvier 2024 pour l'emploi des étrangers et qui vont vers un incontestable durcissement. À compter du 1er septembre, de nouvelles conditions d'obtention des autorisations de travail pour un salarié étranger entrent en vigueur. C'est le sens du décret du 9 juillet 2024 qui a été pris donc en application de cette loi immigration du 28 janvier 2024. Premièrement, primo, ces nouvelles exigences concernent désormais aussi bien l'employeur que le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice que l'entreprise d'accueil. C'est-à-dire par exemple, quelqu'un qui serait embauché dans le cadre d'un intérim, les deux entreprises sont censées vérifier le fait que l'étranger est bien en situation régulière sur le plan du travail. Secondo, ces employeurs ne doivent pas avoir été condamnés, pour des faits de travail illégal, pour des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail, ou pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire des salariés. Donc on le voit, ce sont des condamnations qui ne sont pas nécessairement en lien avec l'emploi d'un travailleur immigré, mais en lien avec tout travailleur. Ils ne doivent pas non plus faire l'objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour atteinte à la personne humaine, faux ou usage de faux, ou pour avoir aidé à l'entrée ou au séjour irrégulier en France. À savoir, lorsque la demande de l'autorisation de travail concerne un emploi saisonnier, alors on s'en éloigne un petit peu, mais bientôt avec les vacances d'hiver, la question va se reposer, le demandeur devra fournir la preuve que le travailleur disposera pour la durée de son séjour d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes, ce qui est d'ailleurs mettre la loi en conformité avec ce qui s'applique déjà aux travailleurs français. Pour les apprentis, c'est à l'entreprise d'accueil située en France d'effectuer la demande d'autorisation de l'alternant dont l'employeur est établi hors du territoire national. Tertio et dernièrement, l'autorisation de travail sera refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l'activité économique de l'employeur, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise d'accueil. On a bien compris qu'il s'agit de lutter contre les emplois de complaisance qui permettent d'obtenir des titres de séjour. Mais une nouvelle fois, l'administration va aller fourrer son nez pour savoir si vous gagnez plus ou moins bien votre vie. Bon. Une bonne nouvelle quand même, et on finira là-dessus, les retraites augmentent de 1,2% au 1er septembre pour environ 1 million de retraités, les moins bien lotis, mais l'inflation étant de 5% sur l'année, cela équivaut quand même à une baisse, mais moindre que prévu. Voilà, vous savez tout et cette chronique se termine, mais vous le savez désormais, nous nous retrouverons dans 15 jours puisque vous en avez pris pour perpète et cette nouvelle chronique en est la preuve. Au nom de la loi, une chronique judiciaire de Laurent Epaillé, avocat, à écouter les 2e et 4e mardis du mois à 12h45, rediffusion le mercredi à 9h35.